Cependant, prenez courage. L'homme que vous trouverez à la porte vous recevra encore volontiers, car il a beaucoup de compassion envers les hommes. Mais, ajouta-t-il, prenez garde que vous ne vous détourniez plus ni à droite ni à gauche, de peur que vous ne périssiez hors de la droite voie pour peu que la colère vint s'allumer. Psaume 2, 12. Basez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Point. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Sur cela, le chrétien se disposait à retourner sur ses pas, et l'évangéliste, après l'avoir embrasé et lui avoir montré un visage souriant, lui souhaita un heureux voyage. Ainsi, il se mit à courir en grande diligence, sans s'amuser à dire un seul mot à ceux qu'il rencontrait, et marcha comme un homme qui se trouve sur une terre défendue, ne se croyant point en sûreté qu'il ne fût rentré dans le chemin qu'il avait quitté pour suivre le conseil de sage mondain. Chapitre 5. La porte étroite. L'interprète. Au bout de quelque temps, il arriva à la porte sur laquelle était cette inscription heurtée, et il vous sera ouvert. Matthieu 7, 7. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Il heurta donc à diverses reprises, disant en lui-même, si je puis entrer ici, quel bienfait pour un méchant et un rebelle qui n'a mérité que l'enfer. Dussé-je y être accablé de peine, je célébrerai à jamais la gloire du souverain de Sion et je lui en témoignerai une reconnaissance éternelle. Enfin, une honnête personne, nommé Bon Vouloir, se présenta à la porte et demanda qui il était, d'où il venait et ce qu'il voulait. Le chrétien, c'est un pauvre pêcheur travaillé et chargé qui vient de la ville de corruption et qui voyage vers la montagne de Sion pour éviter la colère à venir. C'est pourquoi je vous conjure de bien vouloir m'accorder l'entrée de cette porte, puisqu'on m'a assuré que c'est le chemin où il faut nécessairement passer. Bon Vouloir, je le veux de tout mon cœur. Et, en même temps, il ouvrit la porte. Mais comme le chrétien voulait y entrer, il le tira par la manche. Là-dessus, le chrétien lui demanda ce qu'il avait à lui dire. « Regardez, dit-il, il y a là un château très fort, dont Béelzébul est le maître. » C'est de là qu'il décoche, avec ses adhérents, ses traits enflammés sur ceux qui s'acheminent à cette porte pour tâcher de les tuer et, s'il était possible, avant qu'ils y soient entrés. « Je me réjouis, dit le chrétien, et en même temps je tremble. » Comme il fut entré par la porte, le portier lui demanda qui l'y avait adressé. Le chrétien, c'est l'évangéliste qui m'a commandé de heurter ici et, en même temps, il m'a assuré que vous voudriez bien me dire ce que je dois faire ensuite. Bon Vouloir, voilà devant vous une porte ouverte que nul ne peut fermer. Le chrétien, maintenant je commence à moissonner le fruit de mes peines passées. Bon Vouloir, mais d'où vient que vous venez ainsi seul? Le chrétien, parce qu'aucun de mes voisins n'a vu, comme moi, le danger auquel ils sont exposés. Bon Vouloir, quelques-uns ont-ils su que vous vouliez faire ce voyage? Le chrétien, oui. Ma femme et mes enfants ont été les premiers qui m'ont vu partir. Et là-dessus, il récita au portier tout ce qui lui était arrivé, comment ses voisins l'avaient poursuivi, sa rencontre avec sage mondain, la frayeur qu'il avait eue du mont Sinaï et la manière dont l'évangéliste l'avait redressé. « Maintenant, ajouta-t-il, me voici par la bonté de Dieu. » Mais, hélas, plus digne encore d'être écrasé par cette même montagne que de m'entretenir avec vous. Quel bonheur pour moi d'être parvenu jusqu'ici. Bon Vouloir, nous ne faisons aucune différence entre les hommes. Quelque méchant qu'ils soient et quelque crime qu'ils aient commis avant de venir ici, on ne rejette personne. C'est pourquoi, chers chrétiens, entretenons-nous encore un peu ensemble et je vous instruirai du chemin que vous devrez ensuite prendre. Regardez devant vous, voilà votre chemin. Il est frayé par les patriarches, par les prophètes, par Jésus, Christ et ses apôtres. Il est aussi droit que s'il était tiré au cordeau. Voilà la route que vous devez suivre sans y chercher aucun détour. Le chrétien, mais ce chemin est-il bien sûr et ne peut-on point s'égarer? Bon vouloir, oui, vraiment, il y a des sentiers détournés, mais ils sont encore plus bas. Ils sont tortus et larges, et c'est à cause de cela que vous devez bien prendre garde pour discerner le bon chemin du mauvais. Je vous le répète, le bon chemin est toujours droit au cordeau et étroit. Je remarquais aussi que le chrétien lui demanda s'il ne pourrait point le délivrer de son fardeau, car jusque-là il n'avait jamais pu s'en décharger malgré tous ses efforts. Quant à votre fardeau, lui répondit Bon Vouloir, portez-le jusqu'à ce que vous soyez arrivé au lieu de la délivrance, alors il tombera de lui-même de dessus votre dos. Sur cela, le chrétien se disposa à continuer son voyage. Il prit congé de Bon Vouloir. Celui-ci lui recommanda, quand il aurait fait un bout de chemin, de heurter à la porte d'une maison, qu'il trouverait sur sa route, et lui dit qu'il verrait là des choses merveilleuses. Le chrétien prit congé de son ami, qui lui souhaitait un bon voyage, et, continuant son chemin, il arriva à la maison de l'interprète. Il heurta plusieurs fois à la porte, jusqu'à ce que quelqu'un vint répondre et lui demander qui il était. « Je suis, dit le chrétien, un pauvre voyageur. Je cherche des instructions pour mon voyage. J'ai été adressé ici par une personne qui connaît le maître de la maison. » Celui qui avait répondu à la porte appela alors le maître qui vint recevoir le chrétien en lui demandant ce qu'il souhaitait. « Monseigneur, dit le chrétien, je viens de la ville de Corruption et je vais à la montagne de Sion. Celui qui se tient à la porte, sur le chemin, m'a dit que si je venais ici, vous me feriez voir des choses merveilleuses qui me seraient très utiles pour mon voyage. Entrez, lui dit l'interprète, je veux vous montrer ce que vous demandez. Après avoir commandé à son serviteur d'allumer une chandelle, il ordonna au chrétien de le suivre et le mena dans un appartement particulier. Le chrétien y découvrit d'abord un portrait admirable. C'était un homme dont les yeux étaient élevés vers le ciel, qui avait en sa main l'écriture sainte et la loi de vérité sur ses lèvres, le monde était derrière lui. Il semblait à son attitude qu'il plaida avec les hommes et une couronne d'or était suspendue sur sa tête. Le chrétien demanda de qui était ce portrait. Cet homme, répondit l'interprète, est un entre mille. Il peut engendrer des enfants, être en travail pour les enfants terre, et il les nourrit lui-même après les avoir mis au monde d'un Thessalonicien 2:7 « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. » Galates 4:19 « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Quant à ce que vous le voyez ayant les yeux élevés vers le ciel, l'écriture en sa main, la loi de vérité sur les lèvres, et plaidant avec les hommes, c'est pour signifier que son œuvre ne consiste pas seulement à connaître les choses cachées, mais aussi à les exposer aux pécheurs. Le monde derrière lui a une couronne suspendue sur sa tête vous montre qu'il méprise les choses présentes, pour servir uniquement son Seigneur, assuré d'avoir la gloire du siècle à venir pour récompense. J'ai voulu vous faire voir ce tableau avant toute chose, parce que celui qu'il représente est le seul à qui le Seigneur de la cité céleste ait donné le pouvoir d'être votre escorte dans tous les endroits périlleux que vous aurez à traverser. C'est pourquoi prenez bien garde à ce que je viens de vous montrer, et conservez fidèlement dans votre mémoire ce que vous avez vu, de peur que dans votre voyage vous ne tombiez entre les mains de certaines gens qui se vanteront peut-être de bien te conduire, mais dont les sentiers mènent à la mort. Chapitre 6. Continuation, passion et patience. Il le prit ensuite par la main et le mena dans un grand cabinet, tout rempli de poussière, qui n'avait jamais été balayé. Et après que le chrétien eut un peu parcouru des yeux, l'interprète appela un homme pour le nettoyer. Mais dès les premiers coups de balai, il s'éleva de toutes parts une telle quantité de poussière que le chrétien en fut presque étouffé. Ce que l'interprète ayant remarqué, il ordonna à une jeune fille qui se trouvait là d'apporter de l'eau et d'en arroser la chambre, qui fut ainsi nettoyée promptement et facilement. Le chrétien demanda ce que cela signifiait. Ce cabinet, dit l'interprète, représente le cœur d'un homme qui n'a encore jamais été sanctifié par la grâce de l'Évangile. La poussière, c'est le péché naturellement attaché à sa nature qui souille l'homme tout entier depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Celui qui a balayé le premier, c'est la loi, mais la personne qui a apporté de l'eau et qui a arrosé le cabinet représente la grâce de l'Évangile. Vous avez vu que l'homme a commencé à balayer, la poussière s'est élevée de tous côtés sans que la place ait pu être nettoyée et que la poussière a failli vous étouffer. Ceci nous montre que la loi, bien loin de purifier le cœur de l'homme, ne fait que rendre le péché plus vivant et plus puissant, de sorte que, plus elle le découvre et le défend, plus elle l'augmente en réalité, car elle ne donne pas les forces pour le surmonter. Romains 7, 13. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Cette jeune personne qui est venue arroser et qui, par ce moyen, a réussi à nettoyer complètement la chambre, vous offre une image de l'Évangile qui répand ses douces influences dans le cœur. Sous son action, le vice est abattu et surmonté comme la poussière l'a été par l'eau dont on a arrosé la chambre. Par la foi en l'Évangile, le cœur est purifié et mis en état d'hériter le royaume des cieux. Je vis ensuite que l'interprète prit le chrétien par la main et le mena dans un petit cabinet où il y avait deux jeunes enfants. L'aîné se nommait Passion et l'autre Patience. Les traits de Passion portaient l'empreinte du mécontentement, mais Patience offrait l'image de la paix. Le chrétien demandait ce qui donnait à Passion l'air qu'il avait. L'interprète lui répondit, « C'est que le maître veut qu'il attende les meilleures choses jusqu'à l'année prochaine, et lui, il veut les avoir tout de suite, tandis que Patience veut bien attendre. » Alors je vis que quelqu'un s'approcha de Passion avec un sac rempli de choses précieuses qu'il vida à ses pieds. Il les ramassa d'abord avec un extrême plaisir et commença à mépriser Patience et à le railler. Mais je remarquai qu'en peu de temps il eut dissipé tout cela tellement qu'il ne lui en resta presque plus rien. Ah ! Je vous prie, dit le chrétien à l'interprète, expliquez-moi ces choses encore un peu plus. L'interprète lui répondit, Passion est l'image des hommes de ce siècle et Patience est la figure des hommes qui vivent dans la foi et dans l'attente du monde à venir. Comme vous avez vu que Passion veut tout avoir cette année, c'est-à-dire dans ce monde, il en est de même de tous les mondains, ils veulent jouir de tous les biens dans cette vie, ils ne peuvent pas attendre jusqu'à l'année prochaine, c'est-à-dire jusqu'au siècle à venir, pour y recevoir de Dieu leur portion. Ce proverbe commun, un oiseau dans la main, vaut mieux que deux dans le bocage, leur tient plus à cœur que tous les témoignages que Dieu nous a donnés sur la certitude des biens à venir. Vous avez vu Passion consumer tout un peu de temps, sans qu'il lui en soit resté autre chose que quelques mauvais restes. C'est pour montrer ce qui arrivera à tous les hommes à la fin de ce monde. Le chrétien, je vois maintenant que Patience est incomparablement plus sage que l'autre, et cela pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il regarda des biens infiniment meilleurs. Deuxièmement, parce qu'il ne restera à l'autre que la honte et la confusion. L'interprète, votre réflexion est très juste, mais vous pouvez encore ajouter à cela que la gloire du siècle à venir ne se flétrira jamais, tandis que tout le reste passe dans un instant. C'est pourquoi Passion n'a pas tant de sujet de se moquer de Patience que celui-ci en aurait de se moquer de lui, car Passion a ses biens le premier, au lieu que Patience jouira des siens à la fin. Le premier fait place au dernier, parce que le dernier a son temps qui est à venir, tandis que le premier ne laisse personne qui puisse le suivre. Suivant cela, il faut que celui qui doit le premier jouir de sa portion ait un certain temps limité pour le dépenser, mais celui qui obtient sa part le dernier la gardera le dernier. C'est ainsi qu'il fut dit au mauvais riche. Luc 16, 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi, tu souffres. » Je comprends, en effet, s'écria le chrétien, que le meilleur n'est pas de jouir des choses présentes, mais d'attendre et de fixer sa vue sur les choses à venir. Vous dites la vérité, répondit l'interprète. 2 Corinthiens 4, 18. Par ceux que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Toutefois, bien que la chose soit telle, les choses présentes et nos inclinations charnelles sont si étroitement liées, et les choses invisibles ont si peu de rapport avec nos inclinations naturelles, que nous nous attachons très facilement aux premières, et que nous avons toujours de l'éloignement pour celles-ci. Je vis après cela que l'interprète prit le chrétien par la main et qu'il le mena dans un lieu où il y avait du feu allumé contre une muraille, et quelqu'un qui y versait continuellement de l'eau pour l'éteindre, cependant le feu s'allumait toujours davantage et poussait encore plus haut ses flammes. Que signifie cela ? Dit le chrétien. Ce feu, répondit l'interprète, est l'œuvre de la grâce dans le cœur de l'homme. Celui qui y verse continuellement de l'eau, pour tâcher de l'éteindre, c'est le diable. Cependant, il arrive, comme vous le voyez, que le feu s'allume toujours davantage et devient plus ardent, vous allez en voir la cause. Là-dessus, il le fit tourner et le mena de l'autre côté de la muraille, où il vit quelqu'un qui tenait un vaisseau plein d'huile en sa main, et qui versait secrètement et sans discontinuer dans le feu. Que signifie encore cela ? Dit le chrétien. C'est Christ, répondit l'interprète, qui répand sans cesse l'huile de sa grâce dans le cœur, pour entretenir l'œuvre qu'il y a déjà commencée. Voilà ce qui fait que les âmes, qu'il s'est acquises, montrent toujours en elles l'œuvre de la grâce, malgré tout ce que la diable peut entreprendre pour l'empêcher. S'il se tient derrière la muraille, pour entretenir ce feu, c'est pour enseigner que, dans les grandes tentations, on a souvent beaucoup de peine à voir comment l'œuvre de la grâce est entretenue dans une âme. Ensuite, l'interprète prit le chrétien par la main et le conduisit dans un lieu de plaisance où il y avait un palais magnifique et fort agréable à voir. Je vis aussi quelques personnes qui marchaient sur le faîte du palais, vêtues d'habillements d'or. Le chrétien demanda à l'interprète s'il lui serait permis aussi d'y entrer. Et je vis à cette porte une grande multitude de gens qui témoignaient, à leur contenance, en avoir un grand désir, mais ils n'osaient pas. Il y avait également un homme assis derrière une table placée un peu à côté de la porte, ayant devant lui une écritoire et un livre pour inscrire tous ceux qui devaient y entrer. Je vis encore que sur la porte il y avait plusieurs hommes armés, avec dessein de tuer ceux qui tenteraient de forcer le passage. Sur cela, le chrétien parut tout consterné. Mais comme presque tous reculèrent par la crainte de ces gens armés, je vis un homme, qui paraissait d'une valeur extraordinaire, monter vers celui qui était assis à cette table, et lui dire « Écris mon nom ». Cela accompli, il saignit une épée, et mit un casque sur sa tête, se tourna droit vers la porte, en se jetant avec un courage intrépide sur les hommes armés, qui, de leur côté, le reçurent avec une fureur sans égale. Mais cet homme, sans perdre courage, fendit la foule de ses ennemis, en frappant à droite et à gauche, de sorte qu'après avoir reçu plusieurs blessures, et après avoir, de son côté, blessé ses ennemis, il passa au milieu d'eux et pénétra jusque dans le palais. À l'instant, on entendit un cantique, qu'entonnèrent ceux qui se promenaient sur le faîte du palais, et dont voici les paroles. Courage. Entrez dans ce palais de gloire. C'est ici le séjour de l'immortalité, où vous allez jouir du fruit de la victoire, pendant toute l'éternité. Dès que cet homme fut entré, il fut vêtu d'un habit magnifique comme tous les autres. Et le chrétien commençait un peu à sourire, disant « Il me semble que je pourrais dire sans me tromper ce que cela signifie. Laisse-moi aller là-dedans. » « Non, dit l'interprète, attendez un peu jusqu'à ce que je vous ai montré d'autres choses, après quoi vous pourrez continuer promptement votre voyage. » Sur cela, il le mena dans une grotte de fer fort obscure, où était assis un homme qui paraissait fort triste. Il avait les yeux baissés, contre terre et les mains jointes, soupirant si amèrement qu'il semblait que son cœur allait se briser. « Qu'est-ce que cela ? » dit le chrétien. « Demandez-le à cet homme lui-même, » répondit l'interprète. Le chrétien lui demanda donc qui il était ? « Je suis, répondit-il, ce que je n'étais pas auparavant. » « Et qui étiez-vous donc auparavant ? » dit le chrétien. « J'étais, répliqua cet homme, un professeur de belle apparence à mes yeux et à ceux des autres. Je m'imaginais être assez bien disposé pour le royaume céleste et je me réjouissais à la pensée d'y entrer. » « Mais, dit le chrétien, qui êtes-vous maintenant ?»« Je suis, répondit-il, un misérable désespéré, enfermé pour toujours dans cette grotte de fer, sans pouvoir en sortir. »« Ah ! Je ne puis plus en sortir. » Le chrétien lui dit, « Comment donc êtes-vous tombé dans ce misérable état ?»« J'ai cessé, répondit-il, de veiller et d'être sobre. J'ai préféré mes convoitises à la vertu. J'ai péché contre la lumière de la parole de Dieu. J'ai méprisé son support. J'ai contristé le Saint-Esprit et il s'est retiré de moi. J'ai donné lieu au diable qui s'est rendu maître de moi. J'ai provoqué la colère de Dieu et il m'a abandonné. J'ai tellement endurci mon cœur que je ne puis plus me convertir. » Le chrétien se tourna du côté de l'interprète et lui dit, « Comment ? N'y a-t-il donc plus d'espérance pour cet homme ? Hébreux 6, 4-6 » Demandez-le-lui, répondit l'interprète. Le chrétien se tourna encore vers cet homme, et quoi ? Lui, dit-il, n'y a-t-il donc plus d'espérance pour vous ? Faut-il que vous demeuriez éternellement dans cette caverne de désespoir ? Oui, éternellement, répondit cet homme. Pourquoi ? Dit le chrétien. Le Fils unique du Père n'est-il pas miséricordieux ? Oui, je l'avoue, répondit ce malheureux, mais je l'ai crucifié de nouveau. Je me suis moqué de sa personne, j'ai méprisé sa justice. Hébreux 10, 29, j'ai foulé aux pieds et tenu pour profane son sang, j'ai méprisé l'esprit de grâce. Par là, je me suis exclu de toutes les promesses, de sorte qu'à présent je ne puis plus attendre que les effets des menaces les plus terribles, qui me mettent sans cesse devant les yeux un jugement inévitable, une ardeur de feu qui doit dévorer les adversaires, et moi par conséquent. Le chrétien lui demanda encore pourquoi il s'était jeté lui-même dans ce misérable état. « Cela m'est arrivé, répondit-il, par suite de l'amour des plaisirs et des avantages du monde, dans la jouissance desquels je me promettais beaucoup de satisfaction et de commodité. »